gens qui s'affichent ça comme, comme positionnement. Et c'est ce que je disais à, tout à l'heure avec le fait que le, ils vont consommer presque plus de 100% finalement avant d'être rattrapés par l'obligation. C'est une des difficultés aussi que l'on a à accompagner la qualité. Parce que finalement, ceux qui ne font pas bien, pour l'instant, ils ont plus de droits à construire que les autres. Enfin, c'est ce qui était dit aussi avec le fait de construire en renouvellement. Ceux qui ont bien fait ces dernières années, ils se trouvent un petit peu pénalisés. Enfin, pas par plein d'autres sujets, puisque ça revitalise, ça répond à plein d'autres choses, hein, c'est sûr. Mais dans l'esprit comptable uniquement, il y a ce discours qui est aussi.
Ça peut rejoindre aussi un peu ce qu'on a vécu dans certains squats où on raisonnant par poule principale, secondaire, etc. Pour ceux qui sont avec les plus petits ronds, les plus petits carrés sur la carte, ils disent nous on a droit à quoi. Je pense que ça fait écho un peu à ce type de réflexion, mais c'est vrai que là c'est aussi peut-être la façon dont on aborde les questions de planification. Présenter les choses plus que comme une complémentarité de territoire avec chacun sa singularité plutôt que une espèce de pyramide entre les gros points et les petits points.
Du coup, il faut revenir à la question du récit et de l'imaginaire dans lequel le territoire se peut. Si la vision positive du territoire, c'est exclusivement la question de la consommation, oui, effectivement. Alors que si le récit et l'imaginaire du territoire, c'est autre chose, et que, au contraire, le fait d'avoir préservé ces ressources agricoles et naturelles, ça fait partie du récit positif du territoire. Je pense que l'approche, elle peut être complètement revisitée, et que du coup, on s'en fiche de la comptabilité, et que ce qui compte, c'est ce qui est au fond. Sauf
que derrière le récit, il y a aussi la question de l'acceptabilité sociale. C'est-à-dire que vous pouvez faire un récit extrêmement vertueux sur la question de la préservation des espaces naturels. Sauf qu'à titre individuel, on voit bien que toutes les études montrent qu'on a encore majoritairement une aspiration au logement individuel sur un espace et encore plus sur la sécurité ville. Donc en fait, c'est compliqué, ça se complique aussi par rapport à ça. C'est-à-dire que là, pour le moment, on est une espèce de forme d'entre-soi où finalement on est tous acquis à la question. Quand on fait atterrir en termes de planification dans un PLU, par exemple des zones d'optimisation foncière, très clairement dans les secteurs pavillonnaires, on va commencer à dire là il va falloir peut-être densifier pour retrouver de la qualité, donc on tombe sur une question de morphologie. Et aujourd'hui on voit partout fleurir des drapeaux non au collectif. Gardons nos secteurs pavillonnaires, etc. Donc il y a une grosse rétractation sur mon espace individuel et le sentiment de violation de mon espace individuel. Donc effectivement, à partir de là, le récit il est compliqué à mettre en place. Parce qu'il est vécu comme étant une espèce d'affabulation d'un pélo, technocrate, etc. Et puis la réalité, c'est que moi, je veux ma maison avec mon pavillon et mon jardin, etc. Donc,
Et puis qu'il n'y a pas de fiscalité attachée à la préservation des terres agricoles et à la préservation d'un bassin versant. Il n'y a pas de fiscalité. Donc en fait, la commune est démunie par rapport à ça.
Puis le récit national ne va peut-être pas dans le sens des récits qu'on pourrait avoir sur une commune ou aux intercommunalités. Hein. Il y a beaucoup d'élus qui nous disent « Non, vu ce que va faire le voisin, moi je continue aussi. »
Il y a peut-être un travail à détailler aussi sur les logements individuels. C'est vrai que je pense qu'il y a des discours qu'on entend qui sont un petit peu rapides sur le logement individuel, en mettant dans le même sac différentes typologies qui sont très différentes en termes de qualité de vie, de densité, de positionnement géographique, entre la petite maison de bourg qui est le logement individuel et puis le pavillon. Ouais. Carré, on n'est pas sûr du tout sur les mêmes produits. Pourtant, je pense que les deux répondent au même type d'aspiration quelque part.
C'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'il faut décortiquer à quoi on aspire quand on dit je veux mon jardin, etc. C'est-à-dire, qu'est-ce que je cherche en termes de qualité, et peut-être mettre ça en place aussi au niveau des espaces publics, c'est-à-dire que je puisse retrouver finalement ma... Bon, je sais, enfin, je suis urbaine au départ, etc., en travaillant maintenant sur du semi-rural, enfin, des choses qui pour moi sont acquises, c'est-à-dire oui, ça peut être super sympa d'être dans des grands collectifs, avec des grands parcs, etc., encore faut-il avoir vécu, et encore faut-il savoir de quoi je parle, et quand les gens vous opposent, oui, mais alors les bars, la cité des 4000, etc., je veux pas de ça, donc c'est à ça qu'on peut vous opposer. Avec par ailleurs dans des tissus où la qualité des espaces publics elle n'est pas là, elle n'est pas au rendez-vous, c'est-à-dire que tout est dédié à la voiture, la ville a été mise en place un peu n'importe comment avec, comme vous montriez tout à l'heure, des lotissements de bout à bout, et du coup j'ai pas la ville avec ses aménités, donc je ne vois pas de quoi vous êtes en train de me parler, donc je me cantonne dans mon espace individuel auquel je peux donner ma qualité. Donc je pense que c'est à ce défi-là aussi. Il y a une question de morphologie et de qualité des espaces publics qui est vraiment importante à présenter et à valoriser.
L'aspiration à la maison individuelle est puissante, est légitime. Après, je pense qu'il y a différents moyens d'y répondre. Je ne pense pas que l'aspiration à la maison individuelle se traduit uniquement par des pavillonnaires avec des grandes surfaces. Au contraire, je pense qu'aujourd'hui, les surfaces. On pose la question de la surface moyenne de terrain qui est demandée par les acquéreurs. On est assez surpris. Je pense qu'il y a 300 mètres carrés en France. C'est un peu. Quand on décrit un petit peu l'aspiration individuelle, du mouvement individuel, finalement, c'est pas forcément une modèle de chabinet. Il y a certainement des modèles plus denses à proposer. Après, c'est sûr que derrière ça, c'est. C'est la production en masse de l'eau libre. Prendre 300 mètres carrés, c'est pour faire de l'eau libre. Il faut changer de méthode. Quoi. C'est plus la démarche adaptée pour produire du logement. Donc,
Je
voulais
dire, effectivement, mais pourquoi les élus et certains habitants nous répondent vraiment pourquoi c'est plus la méthode, pourquoi on ne peut plus faire ça. Pourquoi on doit changer de modèle, en fait, si je vais exprès dans l'idée, on nous dit effectivement qu'il ne faut plus faire ça, mais pourquoi en fait? Parce que la plupart de nous, on sont nés là-dedans, ou habités, ou habitent toujours. Et là, on ne sait pas quoi trop encore répondre. Effectivement, on peut dire, Monaco, c'est très dense. Pourquoi pas aussi, même dans beaucoup de communes, il y a des collectifs qui ne ressemblent pas à des bars et des tours, mais c'est pas si simple que ça de faire.
Et est-ce que vous arrivez à. Vous arrivez à écouter la question de. Pour autant, les ressources que vous consommez, énergétiques, alimentaires, d'eau, est-ce que vous avez quelle conscience vous avez de ce qui se passe derrière tout ça et du coup, quelle valeur ça donne aux espaces, quoi. Est-ce que c'est possible ou est-ce que c'est pas possible d'envisager ça?
Pour l'instant, ça marche, tout marche. Il y a même la fibre qui arrive encore partout. Donc, l'étalement urbain qu'on a généré, là aujourd'hui, là, le budget alloué pour les réseaux d'eau qui vont être rénovés, c'est 180 millions d'euros, je crois, qu'ils vont parler aujourd'hui. Alors qu'il en faudrait à peu près, je pense, 1 milliard pour tous les départements, par département quasiment, et encore. Donc on n'en sait rien, mais effectivement, la ressource, les réseaux, l'étalement, les déchets, le ramassage scolaire, la fibre, tout ça, ouais, ça. Mais donc ça marche. C'est pas si évident.
La difficulté aussi, c'est la diversité des tissus. Typiquement, pas très loin de Nantes, on a des communes avec des hameaux linéaires, etc. Et donc après, tout le discours des réseaux, de l'énergie, etc. On a une habitation à droite, une habitation à gauche. Pourquoi on ne viendrait pas encore construire ici donc. Après, il y a la question du foncier agricole, du foncier de l'impermeabilisation. Mais c'est vrai que c'est difficile pour beaucoup de comprendre qu'un terrain ne peut pas. Qu'il faut intégrer toutes ces dimensions-là dans la réflexion et pas simplement dire est-ce que je pourrais faire un projet? Oui, si on reprend le éviter, réduire, compenser, l'impact ne serait pas beaucoup plus important à un endroit. Qu'un autre pour une construction, mais en fait c'est tout le modèle qui n'est pas bon. En fait. Et ça, pour un habitant qui va être propriétaire de son terrain, ou pour un élu qui soutient un habitant, c'est plus compliqué. Et dans le, pour revenir aussi sur les, la question des, de la densification, on a eu beaucoup de divisions parcellaires qui se sont faites, un peu n'importe comment, avec, on avait des grands terrains qui se sont divisés, et pour le coup, on a des petits terrains qui sont pas loin des 300 mètres carrés, mais qui sont dégueulasses, avec la construction, on a plus de jardin, on n'a plus rien, et là, on peut que pas être, enfin, que trouver ça négatif, à la fois pour ceux qui étaient déjà existants, qui ont vu quelque chose plutôt de champêtre devenir très très urbain, mais dans le côté très négatif du terme. Et pour les nouveaux habitants, ils sont arrivés là, pas par choix, c'est parce que c'était là où ils voulaient l'aspiration de la maison individuelle, mais il n'y avait plus que là qu'ils pouvaient avoir un terrain dans des dimensions acceptables et puis un prix acceptable.
C'est clair que on explore, on n'a pas la vocation à en faire beaucoup, mais on a fait quelques stratégies foncières. Clairement, il y a certains secteurs ou certains tissus où, pour éviter de créer de la valeur, parce qu'il faut pouvoir aussi lisser dans la durée la question des vivements, et pour éviter de créer de la valeur sur certains fonciers, de garder une densité faible pour une période donnée, en se disant, on sait que ça constituera notre réserve de demain, mais aujourd'hui, c'est pas là notre priorité d'action, et les plus tôt photos, pour éviter le bimbi qui peut se faire de façon un peu... Alors oui, ça valorise pour chacun de façon individuelle, mais pour le collectif, c'est pas du tout intéressant. De se dire, on garde une densité faible sur ce foncier-là, parce que demain, on sait qu'on va pouvoir faire du renouvellement urbain, et que si on redivise en plein de petits morceaux, on crée de la valeur, et du coup, ce sera d'autant plus compliqué d'aller acquérir ce foncier. Et du coup, de construire une stratégie foncière et une politique foncière sur cet ensemble-là, ce sera plus compliqué. Donc plutôt garder une faible valeur. Donc avoir aussi des stratégies foncières dans la durée, et y compris dans les questions de densification.
Sur la densification aussi, la question de l'accompagnement réglementaire, l'accompagnement sur la qualité. Quand on voyait tout à l'heure les opérations de masse, c'est vrai qu'on... C'est assez simple de faire un guide de prescription architecturale. On peut avoir un visa d'architecte sur le projet. Donc on a une certaine garantie de la qualité produite qui est assez maîtrisée. Dès lors qu'on est sur des divisions foncières, on est sur quelque chose de très, très disparate et ça demande des outils différents. Je veux dire, c'est peut-être des OAP thématiques dans un PLU du OAP des divisions foncières. Qui illustre avec des croquis, des différents types de divisions, et puis à chaque fois les réponses qualitatives qu'on peut apporter. Donc c'est vrai, c'est un transfert finalement des outils réglementaires à l'accompagnement du permis d'aménager vers d'autres endroits pour pouvoir continuer d'accompagner les propriétaires sur la qualité.
Ça veut dire aussi qu'il faut. On mène un travail assez important sur la question des filières de production. Ça veut dire, et dans ce sens-là, on va organiser. On anime à l'échelle nationale le réseau national des acteurs de l'aménagement. Et on va décliner à l'automne un réseau local des acteurs de l'aménagement. Parce que, clairement, là où les acteurs étaient en majorité habitués à aller sur des extensions, si on veut qu'ils puissent intervenir dans d'autres formats sur les territoires, il faut accompagner cette transformation des modes de faire. Et là où un CMiste a construit toujours des maisons sans mutualité, déjà si on lui demande de faire de la mutualité, ça devient compliqué pour lui. Si on lui demande de faire de l'alignement sur rue, ça encore complexifie un peu les choses parce qu'il y a toujours la question des coffrets. Puis si on commence à demander des étages, c'est encore plus. Enfin voilà, il y a tout un tas de marches à franchir en matière de production, de filière de production, pour pouvoir arriver à avoir plus de densité ou à transformer les tissus avec des acteurs qui sont sur du territoire, parce que des acteurs du territoire à Sablé sont pas ceux de Nantes et sont pas ceux de Boron ou de je sais pas.
Des promoteurs qui vont réfléchir plus en plus à la réhabilitation.
De facto. Oui.
Dernière, tu voulais, tout à l'heure tu nous as montré la photo qu'on a fait, mais là tu voulais nous montrer la France. Ça c'était notre réflexion un peu sur la vacance. C'est vrai qu'on cite souvent la vacance comme
un gisement de production de logements qui ne consomme pas d'espace. Après, c'est vrai que ça pose quand même un certain nombre de questions, parce que j'avais cherché un logement vacant dans le réseau. Et puis, la vacance n'est pas forcément localisée là où la demande de logement.
Sur un robot de simule, vous avez toute la vacance, elle est répertoriée. Vous avez toute la vacance qui est identifiée à la fois pour les parcelles avec un seul foyer et les copeaux.
Mais c'est vrai qu'il y a peut-être besoin de travailler un peu plus sur caractériser cette vacance en fonction des territoires, enfin d'un territoire où est-ce qu'elle se situe, parce que c'est pas forcément intéressant partout. Hein. Des retours d'élus, le discours qui consiste à leur dire bah, ne construisez pas, vous avez deux jours vacants, ça ne fonctionne pas partout. C'est juste une petite observation pour avoir un regard.
J'avais une question sur la vacance. En fait, je me rends compte que c'est un phénomène qui finalement n'est pas visible pour certains élus. Parfois, c'est la vacance dans le cœur du loup au-dessus des commerces. En fait, on se rend compte que finalement, le cœur du loup, c'est un espèce de départ. Quand tout va bien, il y a encore du commerce en HEC, il y a encore une vie en HEC, mais en fait, les tâches sont tous vides. Et quand on leur demande qu'ils aient des vacances, la réponse est non. Les tâches sont du coup. Et je ne sais pas. J'imagine que si l'élu lui-même ne l'identifie pas comme la vacance, ce logiciel-là ne met pas ça dans
le logiciel. Si c'est un logement qui ne paye pas la taxe sur la. Enfin, alors c'était anciennement la taxe d'habitation, mais bon, c'est votre mode de café, mais elle est repérée. S'il y a un logement identifié, alors si c'est la réserve du commerce, oui, si c'est identifié comme la réserve du commerce, bah là non, puisque si le commerce il est en activité, bah. En revanche, si c'est l'ancien logement du commerçant qui est toujours identifié comme étant un logement, elle est identifiée comme un logement.
On se rend compte que ce sujet-là, il est souvent assez effrayant pour un adulte, et à un moment donné, du coup, la mère en prend conscience, mais après, c'est ce que vous disiez, s'il n'y a pas de logement, s'ils n'ont pas valorisé sur patients, s'ils n'ont pas de logement, ce n'est pas souci, il y a des bâtiments très marqués, que les qualités de logement.
Sur l'accès, c'est souvent la question d'accès, ou on a toujours l'accès qui a été.
Aussi des opérateurs qui j'ai l'impression, sont davantage en capacité de mixer leur programme avec, on voit par exemple avec des résidences seniors, mais aussi avec de l'équipement du commerce, qui arrivent plus facilement à avoir des programmes plus complexes et moins spécifiques. Donc, ils ont compris aussi qu'il va falloir avancer plusieurs choses sur un même projet, donc j'espère que ça va continuer dans ce sens aussi. Peut-être aux collectivités d'être vigilantes sur les appels à projets, sur les programmes.
Nous, on a des progrès à faire sur la médecine fonctionnelle.
Oui.
Pas toujours acquis.
Sachant que cette carte est relativement cruelle, parce qu'on voit l'écart lorsque la vacance, elle est par définition dans un secteur non tendu. Et là, c'est plus, à mon avis, une question d'aménagement du territoire qui se pose, parce que ne va pas arriver les Alpes. Et on voit bien que les zones rouges, elles sont. Je me permets de faire avancer le timing, Président. Un petit mot de présentation de vos outils, monsieur Guido.
Si vous voulez. Je me connecte à.
Alors, les connexions, Thomas, puis moi.
Dossiers qui réfléchissent en ce moment aux ZAN et qui s'approuvent en ce moment, qui s'arrêtent ou qui s'approuvent, et qui arrivent à enlever des projets qu'ils vont consommer en disant que ce sont des projets d'intérêt national ou que ça passe outre la consommation locale, et du coup ça passe en dehors de tout ça. Et du coup c'est pas de la consommation d'espace. Je pense notamment au Puy du Fou par exemple. Ou d'autres, est-ce que vous avez eu l'écho de ça ou de type de projet de ce type-là sur d'autres dossiers? Alors c'est pas mon dossier, c'est lui des Herbiers, je sais pas si quelqu'un le fait, si quelqu'un connaît, parce que j'ai pas eu le fin mot de l'histoire. Mais du coup, est-ce qu'il y a d'autres cas d'exemples de ce type-là ou si vous avez entendu, parce que ça risque de, tout le monde va vouloir faire passer des projets outre la ZAD. Quoi.
Dans les débats du Sénat, sur le fameux projet de loi, il y a un savant texte qui est sorti avec des interrogations, je serais incapable d'en sortir, sur les projets d'intérêt nationaux, voire européens. Je ne sais pas si vous en pensez ça. Y compris dans l'industrie, mais en fait, il y a toute une sémantique. À mon avis, le sujet est loin d'être épuisé. Ça passe par les routes, les aéroports, mais voir les projets d'intérêt régionaux, nationaux, européens.
Si c'est régional, ce sera bête. Mmh. Et après, le Puy du Fou, du coup, n'est d'intérêt pas que régional, mais au-dessus.
Ça, c'est sera bête. Normalement, on va rentrer sur la.
La conférence des Scots et c'est tenue, finalement, sera tenue.
Par la direction. Après, vous avez écouté les noms, hein, c'est urbansimul.fr, vous pouvez aller voir sur vos postes en démonstration, et puis vous avez urbanvitality.fr, qui sont les deux sites à boucler. Le site de Cartofriche, alors Cartofriche, attention, hein, c'est un recensement des friches qui sont que les friches que les recensements ont bien voulu verser sur la plateforme, donc c'est pas du tout ni exhaustif, ni remis à jour de façon régulière, donc c'est à prendre avec beaucoup de précaution à mon sens. Mais ça fait pas, c'est un certain nombre de friches qui sont identifiées, toutes les friches qui ont par exemple été identifiées dans le cadre du fonds friche, elles ont été identifiées, mais si elles sont passées par le fonds friche, c'est qu'elles vont faire l'objet d'une opération, donc demain, dans un an ou dans deux ans, elles ne seront plus des friches. Et Urban Simul National, donc encore une fois, solliciter les collectivités pour qu'elles puissent déjà, un, avoir accès aux données foncières, ce qui n'est pas toujours le cas, enfin, voire même une fois sur deux, ce n'est pas le cas, ils n'ont pas fait la demande d'accès aux données foncières. Donc il y a déjà à demander ces choses-là, y compris les données sur la vacance, avec le COM ou le COMVAC sur la partie des fichiers d'activité éco. Et puis ensuite, de pouvoir garder les accès quand vous intervenez sur une collectivité à l'outil Urbainsimu pour utiliser, faire des extractions. Donc bon, là, vous avez une extraction d'une vision. Alors, il y a une vision un petit peu, c'est pas une vision orthogonale, enfin, c'est une vision orthogonale que vous pouvez basculer, et d'un point de vue pédagogique, ça peut être aussi intéressant. Donc, vous avez un certain nombre de filtres. Vous avez aussi toute la question, toutes les données liées au marché foncier qui sont accessibles par la plateforme, là, les données liées à la vacance qu'on évoquait tout à l'heure. Et tous les documents d'urbanisme sont accessibles aussi, puisque c'est branché sur le géoportail de l'urbanisme. Donc, vous allez vous rassembler toute la donnée liée au foncier. Et les gisements que vous voyez en vert là sont simplement les gisements des unités foncières non bâties. Donc c'est vraiment le basique du basique. C'est pas très... Ça ne va pas vous apporter en revanche sur les gisements beaucoup de choses, parce que c'est des choses qui sont facilement identifiables. Alors peut-être simplement sur la question des unités foncières, parce que reconstituer les unités foncières, c'est déjà un travail de binette en tant que tel. Vous pouvez avoir, comme leur maximum est basé sur les unités foncières, ça peut être intéressant. Et puis Urban Vitalis, c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est le fait de pouvoir solliciter une équipe dédiée à l'échelle nationale du CLMA qui travaille sur... Et cette plateforme permet aux collectivités de poser leurs questions sur un site en friche. Quelles sont les difficultés auxquelles elles sont confrontées pour pouvoir mobiliser cette friche? Est-ce que c'est des questions de pollution? Est-ce que c'est des questions d'émission? Est-ce que c'est des questions de danger vis-à-vis du domaine public? Est-ce que c'est, et du coup, d'avoir des réponses un peu pragmatiques à chaque fois sur ces éléments-là. Et si jamais, dans la discussion, les collectivités veulent aller plus loin, soit c'est vous qui pouvez prendre le relais, soit aussi nous... Fonctionnement, on peut être utilisé, mais on n'a pas la capacité du tout. Pour vous donner un ordre d'idée, mon équipe, c'est entre 12 et 15 personnes pour les régions Pays de la Loire et la Bretagne, avec en plus des actions qui sont à l'échelle nationale sur des bilans d'aménagement, des choses comme ça. On n'a pas du tout la capacité, et ce n'est pas du tout notre objet d'intervenir sur tous ces projets-là. Donc, vous pouvez aussi, vous saisir des informations qui sont données là pour que vous puissiez prendre le relais auprès des collectivités pour pouvoir intervenir dans le cadre de ces frais.
Que vous appelez
l'unité foncière, c'est le rassemblement des parcelles qui appartiennent à la même propriété.
Ah, la même, c'est pas forcément une entité physique.
Non, c'est l'ensemble des unités foncières. C'est l'ensemble des parcelles qui appartiennent à la même propriété.
Et du coup, parce qu'on en parle encore énormément, Urbainsimu par rapport au portail de l'artificialisation.
Alors, le portail de l'artificialisation. C'est sur la carte qu'on voyait tout à l'heure, là, vous aviez. C'est la carte que vous aviez avec la diagonale du vide, là où vous voyez la vacance. Ça, c'est cette carte-là. Ça, c'est le portail de l'artificialisation. Et vous avez cette échelle-là. Ça, c'est la carte. C'est une carte qui est produite à la demande de la DGLN par le CLMA. Alors là, vous l'avez. Je ne sais pas ce que c'est. Il y a plusieurs niveaux. Alors, ça, je pense que je vous montre aussi. Mais, vous avez cette carte-là sur le portail de l'artificialisation. Ça, c'est aussi un portail, mais vous devez connaître hein, de toute façon, j'imagine. Il vous donne des cartographies avec commune par commune le flux qui a été mesuré avec les règles qui sont celles d'aujourd'hui et qui bougent tous les jours.
On peut zoomer énormément.
Vous pouvez zoomer à plusieurs.
Enfin, je suppose que beaucoup de gens l'utilisent.
Bah, j'y vais.
Mais du coup, le portail est. Persiste à côté du journalisme.
C'est deux outils complètement différents, ouais, parce que celui-ci donne des données qui sont à l'échelle de la commune, au maximum, enfin au minimum, si on prend le sens, alors que Urbainsimu, l'unité de travail, c'est l'unité foncière. Donc on n'est pas du tout sur le mini-niveau de détail.
Et avec Urbainsimu, on peut importer des couches, comme on fait.
Mais vous ne pouvez pas importer sur
Urbainsimu. Exporter, pardon.
Vous pouvez exporter en.
Comme sur le portail.
Oui. Vous pouvez exporter pour vous remettre sur vos logiciels de SIG. Voilà ce que je peux vous dire.
D'autres questions sur les outils?
Et sur la partie réglementaire du ZAN, c'est vraiment les services de l'État qu'il faut solliciter et interpellé parce que moi je ne suis pas un seul électeur, je n'ai pas de légitimité pour faire descendre une parole de.
Si je comprends bien, il y a un peu deux